Accent d'Europe, Clémence Pénard.
Bonjour à toutes et à tous. Les agressions envers les élus augmentent en Europe. C'est le cas depuis plusieurs années aux Pays-Bas ou au Royaume-Uni, à l'image de la France. Dans l'Hexagone, les maires sont de plus en plus nombreux à rendre leur écharpe. Selon les chiffres du ministère de la Cohésion des Territoires, depuis 2020, près de 1300 maires ont démissionné. Ça représente une moyenne de 40 par mois. Malaise chez les maires donc, et c'est surtout ceux des communes rurales qui ont le blues, Lise Verbeck.
David Lefebvre est devenu maire de Friville-Escarbotin en 2008, une commune de 5000 habitants pas loin de la baie de Somme. Il est alors le plus jeune maire de France, car élu à 23 ans.
Pour le coup, être maire, on a vraiment ce sentiment d'utilité. Pour moi, c'était le plus important et le plus intéressant.
Il a fait deux mandats et il a démissionné un an avant la fin de son second mandat. Dès le début, il est directement mis dans le bain et il apprend sur le tas le fonctionnement d'une collectivité sans aucune formation.
Je découvrais complètement la gestion d'une collectivité. J'étais issu de mon entreprise. Alors, j'étais très jeune, mais j'ai eu la chance très jeune de pouvoir exercer des responsabilités dans mon entreprise que j'avais pu créer relativement tôt. Par contre, le fonctionnement d'une collectivité locale, avec, si on doit la comparer au fonctionnement d'une entreprise, c'est quand même assez différent. Les logiques ne sont pas les mêmes. Il y a une inertie forcément plus importante en collectivité. Donc les premières difficultés, ça a surtout été des difficultés d'ordre technique. Quelqu'un qui arrive, qui n'a pas forcément les connaissances de base, qui n'a pas forcément envie de s'y mettre à 100%, qui n'est pas entouré d'une bonne équipe, on peut très vite se retrouver à mettre la collectivité dans des situations délicates, quoi, que ce soit sur le plan financier ou sur le terrain juridique.
Pendant 11 ans, il met sa vie professionnelle de côté pour se consacrer entièrement à sa commune. Et il voit des évolutions dans le comportement de ses administrés.
Quand vous avez 5000 personnes dans votre collectivité, chacun avec des exigences en matière de réalisation de travaux dans les rues, en matière de conflits de voisinage, etc., etc., d'éducation des enfants. Voilà, moi, j'ai clairement vu une situation sociale, même presque sociétale, se dégrader en 12 ans. Hein. On sentait quand même que de plus en plus, il y avait cette dimension de plus en plus personnelle dans la société. Donc, il n'y avait plus cette volonté, forcément, du bien vivre ensemble. C'était, moi, je veux bien vivre chez moi. Après, les autres, voilà, ils font comme ils veulent, quoi. Et ça, c'est difficile quand votre travail, c'est justement de faire en sorte que tout le monde vit bien ensemble.
Et la crise des Gilets jaunes a achevé de le convaincre qu'il voulait arrêter d'être maire, car il a voulu mettre en place de la démocratie participative, mais cela n'a pas fonctionné.
J'ai rendez-vous avec Monsieur Vassel.
Être maire, c'est comme un sacerdoce, selon Alain Vassel. Il est élu depuis presque 50 ans dans une petite commune.
C'est 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, et du 1er janvier au 31 décembre de l'année. Il faut être disponible en permanence. Et c'est difficile pour un maire d'une petite commune. Il y en a qui jettent l'éponge, qui ne terminent pas leur mandat.
Il est aussi le président de l'Association des maires de l'Oise, un département où déjà une vingtaine de maires a démissionné depuis 2020. Menaces, insultes, voire coups, les agressions de maires sont de plus en plus fréquentes. Si bien qu'une nouvelle loi a été votée en janvier pour permettre aux collectivités de se constituer partie civile pour soutenir la démarche judiciaire d'un élu victime d'agression. Mais encore faut-il que les maires portent plainte.
On a eu un cas très récemment. Dans une petite commune, le maire de Lius, qui a jeté l'éponge et qui n'a même pas osé porter plainte pour menace de mort, parce qu'il a eu des menaces de la part de certaines personnes, mais comme il n'y avait pas de témoins qui pouvaient attester de ces menaces, c'est évidemment difficile pour un juge d'apprécier le bien fondé, mais le maire est quand même un officier de police judiciaire, donc il devrait avoir plus de crédibilité qu'un simple citoyen qui se comporte mal à son égard.
L'Union des maires joue un rôle très important de soutien pour les élus. Elle propose des formations juridiques, mais aussi financières ou de réglementation. Et elle aide ponctuellement les maires aussi sur la gestion de crise, comme après la crise Covid, selon Sébastien Piatkowski, le directeur de l'association.
La crise Covid, elle est aussi synonyme de brassage des populations, puisqu'on a des populations urbaines qui sont venues en secteur rural. Et c'est vrai que ces brassages-là peuvent aussi générer des situations d'incompréhension, parfois même peut-être de mentalités qui diffèrent en fonction des origines des uns et des autres. Donc ça ne facilite pas les choses. Il y a des exemples, le chant du coq, ou les problématiques liées aux élevages de bovins.
Et l'association a décidé d'aller encore plus loin dans l'aide aux maires. En mars dernier, une ligne téléphonique d'urgence a été mise en place. Les élus peuvent appeler 7 jours sur 7 et être entendus par un psychologue ou un père.
Ça peut être lié à des sujets de faits divers, puisque les élus sont aussi très exposés. Finalement, le maire peut être sollicité à tout moment. Et on a des cas où les maires sont parfois même confrontés à la mort, doivent gérer des situations, notamment constater un décès. Parfois même, ils restent à côté de personnes décédées pendant des dizaines d'heures parce qu'ils n'arrivent pas à trouver de médecin. Et donc, ces situations-là peuvent être relativement difficiles à gérer, émotionnellement parlant, et donc justifient de pouvoir avoir une oreille à qui se confier ou en tout cas avec quelqu'un avec qui échanger.
L'Association des maires de France réclame de meilleures formations pour les élus, mais aussi de meilleures indemnités et une reconsidération des maires par l'État. Et il y a urgence car selon un sondage IFOP, plus de la moitié des maires en France ne souhaitent pas se représenter aux prochaines élections municipales de 2026.
La petite commune d'Ostelsheim en Allemagne n'a pas pour habitude d'être au centre de l'attention. Mais depuis quelques semaines, ses 2500 habitants voient défiler grands médias nationaux et étrangers. Une soudaine notoriété qu'elle doit à son nouveau maire fraîchement élu, Riyan Alchebel, réfugié syrien arrivé en 2015 dans les paysages verdoyants de la forêt noire. Depuis Berlin, Julien Méchaussy.
À peine quelques minutes après avoir remporté l'élection dès le premier tour, Riyan Alchebel prend son téléphone pour appeler sa mère, restée en Syrie. Pris par l'émotion, le jeune homme de 29 ans lui annonce sa victoire, 8 ans après avoir quitté un pays ravagé par la guerre. Sous la menace d'un enrôlement dans l'armée syrienne, Riyan Alchebel traverse la Turquie et atteint les côtes grecques sur un bateau pneumatique avant de traverser à pied les Balkans. Un périple qui le mène dans le nord du Bade-Wurtemberg où il apprend très vite l'allemand et obtient avec brio un diplôme d'employé administratif. Embauché dans une commune voisine de Rostelsheim, Riyan Alchebel refuse pourtant l'étiquette d'une intégration modèle ou du conte de fées. Dans les nombreuses interviews données après son élection, il préfère parler d'un marché. Celles et ceux qui arrivent en Allemagne se doivent d'apprendre la langue, de tout faire pour devenir un membre productif de la société. Une fois cette part remplie, c'est à la société de soutenir les nouveaux venus. Un discours qui séduit alors que le pays fait face à une forte hausse d'arrivées de réfugiés, aux inquiétudes de revivre les tensions de 2015, lorsque l'Allemagne avait accueilli plus d'un million de personnes. Désormais de nationalité allemande et membre des Verts, Riyan Alchebel s'est présenté sans étiquette. Il a fait campagne sur les thèmes qui touchent directement ses futurs administrés dans une région rurale très conservatrice. La disparition des commerces ou encore le manque de places de garderie pour les enfants. Des défis qu'il pourra relever à partir du 18 juin prochain, jour de son entrée en fonction.
Et direction à présent la Slovaquie. Le nouveau Premier ministre slovaque est d'origine hongroise. Une première dans le pays où le sort de cette minorité a souvent été l'enjeu de débats et de tensions entre Bratislava et Budapest. La presse hongroise conservatrice s'est réjouie de cette nouvelle. Pourtant, ce chef de gouvernement slovaque n'a rien en commun avec son homologue hongrois, Viktor Orban. Les précisions de Florence Labruyère.
Un Hongrois à la tête de la Slovaquie. C'est ainsi qu'en Hongrie, de l'autre côté de la frontière, plusieurs médias ont annoncé la nomination au poste de Premier ministre de Ludovít Odor, un économiste de 46 ans, issu de la minorité hongroise de Slovaquie. À Budapest, le Premier ministre ultranationaliste Viktor Orban s'est félicité de la nouvelle. Il faut dire que dans l'esprit de nombreux nationalistes hongrois, la Slovaquie, qui appartenait autrefois au royaume de Hongrie, reste une terre hongroise. Viktor Orban espère peut-être que le nouveau chef de gouvernement slovaque fera jouer la fibre patriotique et mettra en avant les intérêts de la minorité magyar. C'est mal connaître Ludovít Odor. Cet expert, qui a été ministre des Finances avant d'être vice-président de la Banque centrale de Slovaquie, n'a jamais revendiqué publiquement son appartenance à la communauté hongroise. Contrairement à Orban le souverainiste, Ludovít Odor est un libéral. Auteur de plusieurs livres de vulgarisation scientifique, il a aussi enseigné à l'Université d'Europe centrale, une université américaine progressiste fondée par le philanthrope américain George Soros, véritable bête noire de Viktor Orban. Alors que l'homme fort de Budapest est passionné par la politique et le pouvoir, son nouvel homologue slovaque n'a pas d'ambition politique déclarée. Ludovít Odor n'appartient à aucun parti. À la tête d'un gouvernement d'experts, il ne dirigera la Slovaquie que pour quelques mois, jusqu'aux élections législatives de septembre. Des élections auxquelles il n'a pas l'intention d'être candidat.
Soutien à la région séparatiste de Transnistrie dans les années 90, embargo économique, corruption de personnalités politiques. Depuis son indépendance, la Moldavie est soumise aux pressions de la Fédération de Russie. Avec l'arrivée au pouvoir en 2020 de Maia Sandu, une présidente qui entend rompre avec l'allégeance de son prédécesseur à l'égard du Kremlin, les tentatives de déstabilisation russe se multiplient. Le reportage d'Étienne Bouche.
Devant son camion jaune, Yon vend des fleurs le long de la route qui traverse son village. Cet homme de 57 ans vient de travailler 3 mois en Allemagne pour se constituer des économies. À l'écouter, la Moldavie n'offre aucune perspective.
Tout est devenu cher. Tu as beau travailler, il ne te reste rien à la fin, juste de quoi vivre. Pour moi, si les gens t'ont élu, tu dois faire quelque chose pour eux. Si tu es incapable de faire quelque chose, alors renonce à ton mandat et fais comme moi, va creuser la terre et plante des choses.
Mais Yon le reconnaît, la présidente Maia Sandu n'a pas la tâche facile. Depuis son arrivée au pouvoir, le pays a traversé la crise du Covid, a été confronté à un afflux gigantesque de réfugiés ukrainiens et subit une pression énergétique très rude de Moscou. Le prix du gaz et l'inflation se sont envolés. Dans ce contexte, le parti Chor tente de profiter du mécontentement populaire. Avant la guerre, Chor tenait un discours acquis à la Russie. Qu'importe si Moscou a attaqué l'Ukraine et soumis la Moldavie à un chantage gazier sévère, le parti a certes ajusté ses éléments de langage, il se montre à peine plus réservé depuis. Valérie Klimenko, figure du mouvement, l'assure, les accusations de complicité avec la Russie sont infondées.
Il s'agit d'une tentative du pouvoir de discréditer un parti d'opposition en lui prêtant des accointances avec la Russie. Or, avoir des liens avec la Russie n'est pas bien vu en ce moment. Notre parti refuse que la Moldavie soit instrumentalisée dans les jeux géopolitiques d'autres pays. Aujourd'hui, la Moldavie est l'otage de la politique menée par les États-Unis et l'Union européenne. Cette politique consiste à éloigner la Moldavie de l'influence de la Russie et à l'intégrer à l'Union européenne. Mais il faut garder à l'esprit que la Russie est présente ici depuis 200 ans. C'est une réalité historique.
Alors oui, la presse indépendante a révélé que Chor avait payé des citoyens pour grossir les manifestations contre le gouvernement. Valérie Klimenko ne le dément pas. Il s'agissait, selon lui, de permettre aux plus pauvres de rejoindre la capitale pour exprimer leur colère. Le politologue Valeriu Pacha, qui ne fait pas mystère de son soutien à l'équipe pro-européenne de Maia Sandu, relève un renforcement de l'activité russe dans le pays.
Le Kremlin teste différentes méthodes, y compris agressives, en envoyant des provocateurs, dont des gens de la société Wagner, qui manifestement assurent les tâches autrefois dévolues au renseignement militaire. Le Kremlin utilise le mouvement de protestation qu'il finance et attise à travers ses relais en Moldavie, et il espère provoquer du sang de façon à polariser davantage la société et renforcer ses antagonismes.
Depuis l'indépendance, le Kremlin se soucie de maintenir à Kishino un pouvoir loyal à l'égard de Moscou, en s'appuyant notamment sur un système judiciaire déficient et fortement exposé à la corruption. Mais il a aussi recours à d'autres leviers. En Moldavie, une partie conséquente de la population a toujours le russe comme langue maternelle. Et pour s'informer, nombreux privilégient les contenus venant de Russie et sous contrôle de l'État russe. Les autorités moldaves s'en inquiètent. L'année dernière, elles ont suspendu la diffusion de 6 chaînes de télévision. Le journaliste Ivan Sviatchenko est lui-même issu d'une famille russophone. Il a récemment lancé sa propre chaîne YouTube en russe pour atteindre ce public.
Une division s'est opérée entre d'un côté des médias roumanophones regardant vers l'Ouest, favorables à l'intégration européenne, et de l'autre, le journalisme russophone bien fait, qui est soit inexistant, soit pro-russe. Aujourd'hui encore, la propagande russe exerce ici une influence très forte. La diffusion de ces médias consiste à retranscrire l'agenda du Kremlin et à répéter que Vladimir Poutine est notre dieu. Les gens sont abreuvés depuis des années et changer cela ne se fera pas en un claquement de doigts.
Mais pour ce journaliste, l'influence de Moscou est d'autant plus puissante qu'elle ne se limite pas à l'information. En Moldavie, la culture russe autorisée imprègne les taxis, les fast-foods, les réseaux sociaux, et Ivan Sviatchenko y voit une forme de propagande plus pernicieuse. Les vedettes de la chanson, comme les émissions de divertissement, façonnent une image avenante et dépolitisée de la Russie, bien éloignée des répressions et de la réalité de la guerre.
C'est un territoire russe, mais totalement isolé du pays, en sandwich entre la Pologne et la Lituanie, qu'on appelait encore récemment Kaliningrad. Mais une commission polonaise a choisi de changer le nom de cette petite enclave au bord de la mer Baltique. Les explications de Martin Chabal.
Kruleviets, voilà ce qu'apprendront maintenant les enfants des écoles du pays au moment de regarder de grandes cartes de géographie dans les salles de classe. Un retour au nom d'avant la domination soviétique, lorsqu'elle appartenait encore au royaume de Prusse et que tout le monde l'appelait Königsberg, Kruleviets, donc en polonais, une traduction littérale pour la montagne du roi. Mais lorsque l'armée rouge a pris possession de la ville en 1945, le nom a rapidement changé. Lukasz Adamski est historien.
Les soviétiques ont voulu effacer toute influence prussienne. On le voit dans l'architecture, par exemple. Donc ils ont décidé de donner à Königsberg le nouveau nom de Kaliningrad, la ville de Kalinin.
Un changement de nom utilisé donc comme un symbole de domination.
Ce nouveau nom n'est pas neutre. Kalinin, en tant qu'ancien dirigeant de l'Union soviétique, est responsable de beaucoup de crimes commis quand Staline était au pouvoir. Par exemple, Kalinin a signé l'ordre d'exécuter 22 000 Polonais prisonniers de guerre. C'est comme si la France perdait Strasbourg et que la ville était renommée Himmlerstadt ou Eichmannstadt.
Le nom de Kaliningrad a une connotation particulière en Pologne. Il est forcément associé au massacre de Katyn de sinistre mémoire. Dès le retour de la démocratie dans le pays au milieu des années 90, les Polonais ont d'ailleurs commencé à débattre d'un éventuel changement. À l'époque, Varsovie avait choisi de garder officiellement le nom de Kaliningrad pour des raisons pratiques, mais il cohabite dans les registres avec celui de Kruleviets, moins utilisé. Aujourd'hui, avec la guerre en Ukraine et la lutte contre l'impérialisme russe, la Pologne a fini par trancher, ce sera Kruleviets. Et si cette décision a provoqué la colère du Kremlin, selon Lukasz Adamski, c'est à la Pologne qu'il revient de traduire les noms de villes en dehors de son territoire. Il existe d'ailleurs en Europe un cas similaire qui ne fait pas autant débat.
La capitale de la Slovaquie, Bratislava, en allemand, elle s'appelle Pressbourg. J'ai vu des panneaux de signalisation qui nous conduisent vers Pressbourg. Et typiquement, Pressbourg, c'est un nom neutre. Donc ma conclusion, c'est que si on autorise l'Allemagne à utiliser ce nom neutre de Pressbourg pour parler de Bratislava, on peut bien autoriser la Pologne, la République tchèque et la Lituanie à utiliser Kruleviets pour Kaliningrad.
Le comité qui s'occupe des noms de villes et des pays a donc fait le choix de revenir au nom traditionnel sur fond de guerre en Ukraine. Parce que si la Pologne fait tout pour s'extirper de quelconque domination russe, elle le fait aussi dans son vocabulaire.
Accent d'Europe était réalisé aujourd'hui par Françoise Grelot. Retrouvez notre émission en intégralité en podcast sur le site rfi.fr et abonnez-vous à nos réseaux sociaux. À demain!